merci Corinne. Bonjour à tout le monde. Puisque tu dis que je suis en train de terminer, ça va me permettre de me donner immédiatement une immense excuse du caractère totalement improvisé de ce que je vais vous présenter maintenant, puisque je ne dors plus de mes nuits, je corrige, je n'arrête pas. Donc je dois le rendre pour la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui ouvre, vous le savez, mercredi, dans des conditions un peu particulières. Et je dois être mercredi à Paris. Donc voyez dans quel état de stress je peux être, puisque il me reste à peu près 200 pages à corriger. Donc improvisé d'autant plus que je vais essayer de mêler pour cette séance particulièrement. Je savais que j'aurais pas le temps d'être vraiment dans une préparation d'un article de fond, hein, mais c'était un peu le jeu. Puis on est dans une séance convivial entre collègues. Je vais essayer de mêler une précédente recherche que j'avais effectuée en grande partie grâce aux archives Garcia, situées dans le 12e arrondissement à Paris, puisque j'étais allé chez lui en 2002, je crois, fouiller dans son fond personnel, puisque si vous avez besoin d'un programme scolaire de n'importe quelle discipline, vous lui demandez, hein, c'est-à-dire que donc il faut passer quelques heures chez lui, c'est le seul dommage. Donc deux recherches. La première, c'est celle que j'avais entreprise il y a assez longtemps pour un colloque pour Budapest, où en Hongrie on se pose des questions similaires maintenant sur le roman national. J'avais travaillé sur les documents officiels de l'éducation nationale concernant les enfants issus de l'immigration, et notamment toute la littérature grise de l'inspection générale d'histoire, et pas seulement, littérature officielle aussi avec le rapport Giraud, le congrès de Montpellier de 84 dont je vais parler. Et deuxième recherche, c'est celle effectivement que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration vient enfin nous a commandé il y a 2 ans. Et qui arrive au bout, et moi avec, et qui concerne l'enseignement de l'histoire de l'immigration dans les classes. En fait, la cité souhaitait une sorte d'état des lieux. C'est fait, j'essaierai de vous en donner évidemment les principales conclusions rapidement, mais même si je pense que... Ce que je voudrais éclairer, en fait, je voudrais faire une relecture de Patrick Garcia, parce que et de Suzanne Citron, ce qui est un peu gênant d'ailleurs, parce que là, à la fois, je suis très honoré que Suzanne Citron soit là, et en même temps, je lui avais dit une fois, mais je suis à la table d'un de mes objets de recherche. Donc c'est toujours embarrassant et en même temps stimulant, c'est-à-dire que parfois, j'ose pas parler, et parfois, j'ose parler, donc je vais essayer de faire simple. Et je vais essayer aussi de répondre à 2 questions de Corinne. D'abord, est-ce que le roman national existe-t-il encore, peut-il encore exister sous sa forme actuelle? Donc ça, je vais essayer d'y répondre. Et puis, tu m'as demandé aussi, Corinne, de faire le lien entre colonisation et immigration. Vous voyez, donc on va prendre un peu de temps.
Plus que 25 minutes déjà.
Absolument. Mais c'est important parce que, voilà, je sais d'où je parle maintenant. Enfin, vous savez d'où je parle. L'objet, en fait, de ce que je vais essayer de proposer là rapidement, c'est de rendre compte de la façon dont les enfants issus de l'immigration ont été intégrés dans les discours et les pratiques officielles de l'éducation nationale en France. C'est-à-dire que je vais être amené à faire à la fois une histoire de cette prise en charge, une sociologie du curriculum, mais aussi une sociologie des acteurs. Hein. C'est-à-dire que ça va être un peu patchwork, et en même temps, évidemment, avec la réflexion sur ce qu'est l'histoire de l'immigration et ses logiques actuelles. Je voudrais rappeler en dernier point de conclusion le fait qu'il y a une véritable... Oui, il me l'a manqué un point de conclusion, d'introduction, pardon. C'est la misère des sciences sociales concernant l'immigration. Vous savez qu'à la fois Gérard Noiriel, Nancy Green ou Abdelmalek Sayad n'ont cessé de crier dans le désert sur cette absence de travaux scientifiques. Sayad disant même que c'est cette absence dans le champ historique de l'histoire de l'immigration, le fait qu'elle n'était pas pensée, comme Suzanne Citron vient de le dire, était liée très certainement à l'indignité des personnes elles-mêmes dans le champ social. Alors, 3 temps. D'une part, l'apparition, enfin plutôt la construction sociale du problème de l'immigration, des enfants de l'immigration à l'école. Deuxième temps, dans quel contexte ça s'est joué. Et là, vous allez voir que je rejoins beaucoup de contextes qui ont été évoqués ce matin et cet après-midi avec Suzanne. Et puis, dernier point, la question des enfants eux-mêmes, des élèves qui sont confiés à l'école de la République, dans ce qu'ils peuvent dévoiler de la société française. Parce que, je le dis tout de suite, parce que je suis sûr que je vais oublier, parce que je vais courir tout à l'heure, il est bien évidemment que quand on parle, Noiriel le dit sans arrêt, mais il faut le redire et le redire, parler de l'histoire de l'immigration, c'est pas parler des immigrés eux-mêmes, mais c'est parler de la société tout entière. Et tant qu'on ne fera pas ce cadrage méthodologique et épistémologique fondamental, on n'avancera pas sur la question de l'immigration en France. J'expliquerai. construction sociale, là j'emprunte aux sociologues bien entendu cette dimension-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un ensemble de discours vont être tenus. Rapport Giraud, 83, remis suite à Alain Decaux qui dit qu'on enseigne plus Jeanne d'Arc. Rapport Giraud, je peux vous citer des extraits parce que c'est très important d'entendre le rapport de Giraud. Il s'agit de faire comprendre l'importance de la civilisation et de l'histoire des autres afin d'éveiller l'esprit de tolérance. C'est le leitmotiv de l'école, c'est la tolérance. Il faut tolérer les enfants qui sont confiés à la République. C'est tout un projet éducatif. Tout en répondant aux éventuelles interrogations que les enfants des populations récemment immigrées peuvent poser sur leur passé ou leur pays d'origine. Et ça, c'est le point de départ, si vous voulez, pour que dans l'école, on s'intéresse, et ça, l'inspection générale, on le dit très clairement, c'est pour ça ce développement de la Méditerranée au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on pense... On pense rendre justice de l'histoire des enfants que l'on reconnaît comme étant issus de l'immigration en leur mettant la Méditerranée au Moyen-Âge. Deuxième citation de Giraud, puisque les élèves issus des familles de travailleurs immigrés sont en... C'est une locution très rare, mais elle date de 83, elle sera quasiment plus utilisée dans les années, à la fin des années 80, où là on resitue socialement les enfants. Ils sont là en tant que travailleurs, enfants de travailleurs migrants. C'est une dimension sociale qui a tendance à s'épuiser et qui maintenant est transformée dans des catégories religieuses, puisque maintenant on parle d'enfants musulmans dans les textes officiels. Vous voyez qu'il y a une prédominance aussi de la question maghrébine. On voit bien que le poids du colonial là affleure en permanence. Puisque les élèves, vous voyez ce que dit Giraud, puisque les élèves issus des familles de travailleurs immigrés sont en nombre croissant et qu'ils forment ici et là la majorité de certaines classes, réalité que l'on peut regretter, on ne peut esquiver le redoutable problème de l'enseignement des civilisations des pays d'où proviennent ces travailleurs. Civilisation, on reprend à travers Giraud l'idée de Brodel de parler d'une grammaire des civilisations, et très concrètement, c'est ce qui va être défini, mais enfin dans des modalités un peu complexes. Giraud poursuit, la société française a été peu à peu constituée par l'amalgame de différentes ethnies régionales, plus ou moins fondu dans un creuset unique dépendant d'une capitale Paris et d'une idéologie, le jacobinisme. Cette centralisation, il y a une coupure dans la citation officielle d'ailleurs, je voulais le faire remarquer d'ailleurs. Cette centralisation est-elle capable de s'adapter aux nouvelles dimensions, nouvelles ouvertures? Le fait d'être européen, celui de recevoir des minorités non européennes, nous oblige à prendre en considération qui sont nos voisins européens, qui sont ceux qui vivent avec nous, parmi nous et dont les enfants fréquentent les mêmes établissements scolaires. Qui sont ces autres, dit Giraud, et comment apprendre à les accueillir, à les estimer et faire qu'eux-mêmes... ou tout au moins leurs enfants, sachent qui nous sommes. Problème grave, délicat et grandissant. Rapport Giraud, l'ensemble, c'est le problème d'avoir un objet de recherche, et du coup on lit la société tout entière à travers le prisme de son objet de recherche. Mais l'ensemble, on pourrait lire l'ensemble du congrès de Montpellier en 84, sur des réflexions de l'inspection générale, à l'aune de la question immigrée. Parce que c'est ça, je vais venir au contexte, c'est ça qui détermine toutes les interrogations, à mon sens, en tous les cas, dans leur majorité. Le rapport Giraud est poursuivi d'un rapport Berck en 1985, Berck spécialiste du monde arabe que vous connaissez, et qui lui propose de prendre en compte, là encore, les civilisations de l'extérieur, et notamment du Maghreb, dans des phrases... pleine de poésie, comme Berck sait le faire. Notre propre mondialité commence à l'ère islamo-méditerranéenne, représentée sur notre sol par tant d'ouvriers, d'intellectuels et d'écoliers, lesquels rejoignent par l'encheminement les discours d'Averroès sur notre colline Sainte-Geneviève. De la façon dont, par la coutume scolaire, comme en bien d'autres domaines, nous traduirons en nous ces présences et ménagerons la nôtre dans l'ensemble islamo-méditerranéen, dépend une partie de notre avenir. Le rapport Berck est enterré. Il proposait quelque chose d'assez intéressant, d'ailleurs on pourrait y réfléchir, c'est non pas de faire pour les enfants issus de l'immigration une histoire de l'immigration ou une histoire de la Méditerranée au Moyen-Âge, figée dans sa superbe au XIIe siècle, dont les enfants ni les familles ne sont porteurs en rien, mais il proposait plutôt de montrer que, de faire une grammaire des civilisations, mais y compris dans les classes où il y avait absolument aucun enfant issu de l'immigration. C'était l'idée d'une culture commune en tant qu'apport universel. Le rapport Joutard en 90, lui, est directement, c'est le premier rapport, vous savez, dont s'est largement inspiré le rapport Debré, en partie, en tous les cas, c'est la question de question religieuse et du fait religieux. Le rapport Joutard 90. Et Joutard a une citation lui aussi, une première citation d'ailleurs, où il explique que il faut faire en sorte que le maître ne soit pas acculé à cette seule planche de salut, quand on enseigne, hein, qui consiste à dire aux petits protestants ou aux petits musulmans de service « raconte à tes camarades ». Ce qui aboutit au mieux, dit Joutard, à mettre une étiquette sur l'élève en cause et à le marginaliser dans sa propre classe. Alors, là évidemment, je suis obligé de parler maintenant dans un deuxième temps du contexte, j'essaye de tenir le temps, du contexte, parce que la prise en charge des enfants issus d'immigration s'est faite dans un contexte multiple, et que je vais essayer de résumer. D'abord un contexte politique général, et là je vais évidemment très vite, je n'ai qu'à citer les séries de regroupements familiaux dans les années 70, la fermeture des frontières 74-75, Dreux et la victoire du Front National en 1984, et l'affaire du foulard qui a été rappelée. Un contexte général. Et comme dirait Marc Bloch, on interroge le passé jamais qu'à partir des questions du présent, c'est une donnée. Un deuxième contexte, c'est le contexte scolaire, qui est particulièrement porteur pour l'éducation nationale, parce que, et là faudrait en dire deux mots, parce que c'est très important, et là Suzanne Citron a joué un rôle fondamental, qu'elle sait mais qu'elle ne veut pas reconnaître complètement. C'est que qui a été en première ligne dans le regroupement familial, dans des cités de transit, dans les externes de bidonvilles, dans des établissements qui n'étaient pas encore sortis de terre, où parfois on faisait cours sur la terre battue, et je vous raconte, c'est pas du Zola, c'est de la vraie vie, c'est les instituteurs et les institutrices qui ont été en première ligne. Et dans les centres qui ont été créés, comme les CEFISEM, les centres de formation sur les migrants, tout ce qui a été fait autour de la question, on a beaucoup lu Suzanne Citron. C'est-à-dire qu'on a une dette dans le primaire. Dans le secondaire, c'est des débats plus idéologiques, hein, qui se sont produits autour de vos réflexions et de vos travaux. Mais dans le primaire, c'est une dette véritablement. C'est-à-dire, comment prendre en compte cette richesse, j'utilise les mots indigènes, hein, les mots utilisés, les catégories utilisées par les acteurs, comment rendre en compte de cette richesse, de cette altérité prometteuse de partage de culture, comment faire en sorte, mais oui, leur histoire est magnifique, elle est à égalité, on est dans un contexte politique large que les plus anciens, dont les plus anciens se souviennent certainement, j'imagine, c'est-à-dire d'abord parce qu'on est aussi dans un contexte de remise en cause profonde de l'histoire enseignée, de l'histoire chauvine, mythificatrice, patriote. C'est en plus, il faut pas oublier, c'est quand même, ça représente 600, dans les années 70, c'est quand même 600 000 enfants scolarisés qui viennent, mais avec un mythe, là, pour le coup. Et c'est pas du tout de la faute de Suzanne Citron, je tiens à le dire, hein. Un mythe total, c'est que on n'a pas écouté les sociologues de l'époque, qui sont rares, il faut le dire, mais les sociologues de l'époque disent attention, cette immigration de travail n'est pas une immigration de retour. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement profond, post-colonial majoritairement, qui fait que les enfants sont installés ici. Et d'ailleurs, on le sait dans les travaux de sociologie, c'est que les parents sont là en disant « mon fils sera ingénieur, mon fils sera notaire, chirurgien, médecin ». C'est-à-dire qu'on a une sorte de malentendu fondamental dans l'école qui fait qu'on prend en charge des enfants dont on pense qu'ils vont rentrer au pays. Alors, je passe les détails parce que on pourrait rester longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on va penser dans l'éducation nationale pour la première fois l'immigration. D'abord, premier paradoxe, au moment même où l'immigration cesse. Et dans l'idée du retour, au moment même où les familles n'ont qu'un objectif, c'est de rester et de réussir socialement. Troisième contexte, la crise de l'histoire enseignée. À la fois Patrick Garcia et Suzanne Citron en ont parlé. Crise enseignée, l'éveil, notamment à l'école primaire. Il y a là un contexte général qui fait qu'on se pose des questions. Mais alors du coup, quelle histoire faire? Puisque déjà, ils savent pas Jeanne d'Arc. Hein, donc on est dans une sorte de remise en cause totale. Avec un contexte historique, quatrième contexte, le contexte historien lui-même, c'est quand même le début des travaux issus de l'histoire sociale. Ça passe par l'histoire sociale. Gérard Noiriel, Yves Lequin, La Mosaïque France, 88. Gérard Noiriel, Le Creuset français. Chor, j'oublie toujours le prénom parce que je confonds avec Paul. Ralph, merci, sur l'opinion publique et les immigrés. C'est-à-dire que, historiographiquement, on s'est saisi de la question. On travaille la question à partir du social. On a des travaux tout à fait remarquables qui naissent. Et on passe, si vous voulez, pour reprendre un peu ce que disait Patrick ce matin, on passe historiographiquement de la différence extraterritoriale, les années 58-62, où Brodel vante la grammaire des civilisations, aux différences, au dépaysement intellectuel, si vous voulez, qui passe dans l'infranational, c'est-à-dire ce qui est chez soi, chez nous, et qui nous fonde. Le problème, ça c'est ce que pensent les historiens, mais on le sait, ça a été rappelé, à aucun moment Inouariel a fait partie de commission de programme dès les années 80, 88-89 avec Paul Vieille, spécialiste de l'Iran, dans des commissions ministérielles, et ça n'a jamais débouché sur rien, parce qu'on continue à la fin des années 80, début 90, à penser l'immigration en tant que cela intéresse les enfants issus de l'immigration, mais pas en tant que cela intéresse la nation française dans son entier. Du coup, l'introduction dans les programmes scolaires de l'histoire de l'immigration n'existe pas. La place de l'histoire de l'immigration dans les manuels scolaires, et j'ai fait un test absolument lamentable, déloyal, je le dis, je l'assume, je suis allé voir les manuels de Pierre Milza. Manuel de Pierre Milza, quand il était encore professeur de lycée et qu'il contribuait modestement, comme chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie. Pardon ? Nathan. Et 70. Il était déjà prof en prépa, je crois. Et je me suis dit, chez Milza, c'est pas... Parce que j'ai regardé 30 manuels scolaires des années 50 à 80, et il n'y a aucune trace de rien de l'histoire de l'immigration. C'est un impensé total. C'est un, ce mythe dont parle Suzanne Citron, et c'est un silence assourdissant. Et je me suis dit, chez Milza, non, c'est pas possible. Milza est en train de faire sa thèse quand il écrit les manuels scolaires. Je me dis, c'est pas possible. Tout est lu à l'aune de la question sociale. Autrement dit, la question de l'immigration est absente, mais absolument absente. Il n'y a même pas une mention sur les Italiens. Alors, je vais vous dire quand ça arrive, évidemment. Il y a un tournant, quand même. C'est le tournant que j'appelle le tournant, ça c'est pour me faire bien voir, évidemment, vous aurez compris, le tournant Joutard-Borne. Parce que, cela dit, je suis le seul à le dire, ça n'a jamais été repris. Donc, le tournant Joutard-Borne, ça, c'est quoi le tournant Joutard-Borne? C'est d'abord Joutard qui, effectivement, s'intéresse, lui, à ces questions-là, les questions de l'immigration. Il est aujourd'hui directeur du comité pédagogique de la Cité de l'immigration. Oui, il y a une continuité. Et puis Borne, parce que Borne a toujours eu une passion pour l'ère méditerranéenne et le monde musulman. Pas seulement d'ailleurs, mais aussi. Et eux vont être les premiers, dans le curriculum, mais savants, à intégrer les dimensions de l'immigration, ou plutôt des cultures immigrées. Et c'est vrai que notamment un concours à l'ENS, je me souviens plus l'année, malheureusement je l'ai pas noté, où là on a la question des décolonisations et notamment du monde musulman. Mais c'est absolument à la marge de l'école historique. Et vous savez bien les problèmes que Noiriel décrit sans cesse de sa place et de sa reconnaissance, un peu trop, comme pense Patrick, mais en tous les cas, c'est une réalité, et de sa place, son inscription dans le champ historiographique, mais aussi marginale dans le curriculum, puisque ni les programmes, je le dis, ni les manuels scolaires n'abordent à aucun moment que ce soit, j'ai tout vérifié, hein, je suis payé pour ça, donc il faut bien que je le fasse de manière exhaustive, hein, à aucun moment l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire, là, c'est plus qu'un impensé, vous comprenez? C'est-à-dire que du coup, on peut se poser la question, évidemment, je le dis pas innocemment, sur le fait, est-ce que ça cache pas autre chose? Évidemment, ça cache. Alors que dévoile, dernier point, la prise en charge des enfants issus de l'immigration à l'école. D'abord, un impensé, je donne les conclusions, bien évidemment, hein, je pourrais en discuter, mais d'abord, ça cache un impensé colonial très profond. C'est-à-dire que les enfants que l'on considère comme faisant partie de l'espace national jusqu'en 62 ne font plus partie de l'espace national après 62. Et bien qu'indigènes, mais nationaux sans être citoyens, comme les femmes jusqu'en 45, hein, du coup il y a une homologie assez précise, ces citoyens qui n'en sont pas, se relégués dans la sphère coloniale, sont quand même considérés comme nationaux. Dès 62, ils ne le sont plus, vous voyez, quand le droit fait sens, c'est les énoncés performatifs du droit. Les enfants issus d'immigration mettent la France en contradiction avec ses propres valeurs et avec les valeurs de l'école. C'est une grande idée d'Aimé Césaire et de bien d'autres, c'est le fait que ce sont les marges qui vont interroger le centre, c'est-à-dire que, du coup, le fait qu'on n'ait pas pris en compte cette histoire coloniale à sa juste mesure, une fois que le monde postcolonial est en métropole, les questions vont se poser tout à fait différemment. Deuxièmement, les refoulés de la mémoire de la guerre d'Algérie. Il est très clair que, en tous les cas, quand les enseignants, les professeurs veulent rendre compte de l'histoire de l'immigration, ils n'abordent pas l'histoire de l'immigration, ils n'abordent pas l'exil, ils n'abordent pas l'intemporalité de l'histoire de l'immigration, ils abordent la guerre d'Algérie. Il y a une sorte de poids énorme. On ne parle pas des Belges, par exemple, très peu dans les classes en France, très peu des Luxembourgeois, par exemple, qui ont été 50% jusqu'aux années 1900. Hein. C'est-à-dire que cette histoire profonde de la construction lente de la nation française n'est pas abordée. On va rendre compte au nom du colonial ou du post-colonial, dans une sorte de reconnaissance de la dette. Déconsidérés socialement, je les reconsidère scolairement. Ces enfants qui sont issus de familles déconsidérées scolairement, socialement, je vais les reconsidérer scolairement. Refoulés de la guerre d'Algérie, j'insiste pas. J'insiste pas. Ça a été dit par une crise épistémologique aussi. Ça, les enfants issus d'immigration, à mon sens, dévoilent une crise épistémologique. Une crise épistémologique. Pourquoi ? Parce que le moment de la prise en compte de ces enfants, de ces élèves, correspond à une crise de la discipline enseignée, ça bien sûr, mais plus profondément aussi une crise du statut de la discipline face aux autres sciences sociales. Et on s'en souvient peut-être, mais ce sont les critiques, dans un article fameux avec Roger Chartier, les critiques de Bourdieu sur les historiens, où Bourdieu est sans pitié. Il parle d'une science sociale Canada Dry. Ça ressemble à des sciences sociales, ça ressemble à de la méthodo, ça ressemble à du sérieux, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que les historiens, vous ne vous rendez pas compte, vous utilisez des catégories qui, au regard de la science sociologique, ne tiennent pas la route. Crise didactique aussi. Tout ça, c'est dévoilé. Vous voyez, c'est un artifice rhétorique, hein, bien entendu. C'est-à-dire, les enfants issus de l'immigration dévoilent une crise didactique. Crise didactique, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va rejouer des débats qui ont eu lieu à la fin des années 50 avec les programmes Braudel. Notamment, vous savez, ce débat que Patrick connaît mille fois mieux que moi, entre Hubac et Braudel, en gros, c'est-à-dire entre les événementialistes, ceux qui sont dans l'idée d'un roman national et ceux qui veulent ouvrir au monde la question de la civilisation et des cultures scolaires. Mais en fait, ce clivage-là entre l'ouverture au monde et l'événementialiste du roman national étriqué, hein, pour utiliser les expressions que j'ai lues, en fait, c'est un débat qui va se déplacer, puisque le Braudel progressiste de la fin des années 50, après Bandung, dans un contexte de décolonisation, devient cette espèce de parangon de la culture nationaliste chauvine bourgeoise, puisque si on lit Noiriel, c'est ça quand même. C'est-à-dire, mais Braudel n'a rien compris. Regardez l'identité de la France. 3 volumes, pas une phrase sur les immigrés, sauf à la toute fin pour dire, allez, je résiste pas.
Par contre, une phrase de Michelet.
Oui. Pour la première fois, dit Braudel. C'est à la toute fin, c'est dans les éléments de conclusion, parce qu'il a écouté une émission sur Europe 1 où il y avait une jeune issue de l'immigration qui disait que vraiment elle s'était battue pour avoir son bac. Et il dit, j'exagère pas, hein, vous lirez, enfin je veux dire, pour la première fois, je crois, sur le plan national, l'immigration pose à la France une sorte de problème colonial. La liste serait trop longue des étrangers qui ont accepté de devenir nôtres, mais cela, en revanche, 3 petits points. Donc on est vraiment... Il y a au sujet des enfants issus de l'immigration postcoloniale une question qui interroge la société tout entière. Crise idéologique pour finir, je voudrais finir par ça, c'est la laïcité qui est en question, bien entendu. La laïcité, parce que à partir du moment où la visibilité des enfants issus de l'immigration est manifeste dans l'enceinte scolaire, où l'on fait des rapports dessus, où l'on va s'interroger sur comment on va les prendre en compte, la culture couscous dans les établissements, est-ce qu'au contraire, comme pense Chevènement, il faut refaire Jeanne d'Arc absolument et surtout on élimine tout ce qui est civilisationnel. Bon, toutes ces dimensions-là, à un moment donné, elles se heurtent à une question de fond, c'est qu'on va poser pour ces enfants-là, en particulier, des questions que l'on n'a jamais posées. Et du coup... La société française, et je vous renvoie au débat que nous avons tous eu dans nos établissements scolaires au moment de la commission Stasi, par exemple, et tout. Et là, on va se poser des questions qu'en fait, on aurait peut-être dû se poser indépendamment de la question des enfants issus de l'immigration. Et vous vous souvenez des clivages dans les salles des profs, les salles des maîtres, les salles des formateurs IEFM sur la question, parce que finalement, c'était des questions d'une sorte de consensus mou. Ben, on est laïque. Mais qu'est-ce que ça veut dire laïque ? Et je trouve que Alain Michel nous a bien rappelé des questions de laïcité ce matin d'une certaine manière. Il y a 1000 manières d'être laïque. Mais brutalement, parce qu'on est obligé de prendre la question de l'islam, parce qu'on veut s'intéresser aux familles issues de l'immigration, je termine Corinne, je te rassure, on est dans une situation où la laïcité devient objet d'interrogation. Bobéro le dit, hein, et parmi les points où il dit qu'il y a une crise de la laïcité, il situe tout de suite la condamnation par l'ONU échouée de la torture en Algérie par le Conseil de sécurité. Il dit la première rupture, elle arrive là. Pour conclure, les problèmes identitaires ne sont toujours pas là où on croit. En fait, et c'est une conclusion un peu provocatrice, mais j'essaye de renverser un peu le paradigme dominant, ce n'est pas tant les enfants de l'immigration et leur identité supposée qui posent un problème à la France, dans leur quête identitaire, supposée, là encore. Hein, c'est pas parce qu'il y a 10% d'élèves qui réclament des choses que les 90% sont concernés par une quête identitaire dont il faudrait interroger les fondements. Mais c'est plutôt le fait qu'à l'occasion des réflexions sur eux, sur ces élèves-là, que vont se poser des questions plus larges et plus liées à l'identité de la France, de son école, de la laïcité, de la République, de la discipline enseignée, des cadres épistémologiques de la discipline. Bref, c'est l'identité historienne qui est ici complètement mise à mal. Et alors, mise à mal, je peux dire en deux mots les deux, trois points de conclusion du rapport qu'on va remettre là cette semaine. C'est que quand on demande aux enseignants, est-ce que vous enseignez l'histoire de l'immigration, est-ce que vous acceptez de répondre à... Alors, bien sûr, pas de problème, au contraire, magnifique. On en parle tout de suite. La réalité, et ça s'est accompagné de 27 analyses de classe, hein, je veux dire, c'est des heures et des heures dans les classes ou de rush de classe, de situations vidéo, donc on a vraiment travaillé sur les pratiques effectives y compris, c'est que les enseignants, et principalement d'histoire, ne travaillent pas sur l'histoire de l'immigration, ils travaillent sur la géographie, ils travaillent sur l'éducation civique, ECJS principalement, c'est-à-dire que ce qui polarise l'attention aujourd'hui quand on évoque la question de l'histoire de l'immigration, c'est l'actualité la plus brûlante. Les disciplines qui assument une partie de l'histoire de l'immigration et avec une parfaite cohérence à la fois didactique, disciplinaire, ce sont les langues et les lettres. Les langues, parce que c'est le meilleur, enfin, du point de vue, si vous voulez, il n'y a pas de meilleur ou de bon, enfin, ça n'a pas de sens, mais les programmes les plus complets aujourd'hui dans le système scolaire sur l'histoire de l'immigration, c'est en langue. C'est en langue qu'il faut les trouver. Et là, du coup, les enseignants font les immigrés espagnols, par exemple en espagnol. Dans les cours de langue vivante 1 et 2 en hébreu, on parle de l'émigration et de l'immigration en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'évidence dans les sujets. Donc on a là quelque chose qui interroge manifestement. Évidemment, une idée que j'ai, c'est que très certainement, nous tous, je parle de nous, historiens, qui avons été formés à l'école historique française, liés dans un enracinement du sol. Enfin, je vous renvoie aux critiques de Noiriel sur le fait qu'on est bien, évidemment, dans un enracinement, dans le mythe d'une nation homogène, dans une France gauloise, même si, évidemment, on est critique, mais au fond, on a du mal à penser les autres. Eh bien, peut-être qu'on est nous-mêmes, dans les pratiques de classe, enfermés dans des catégories qui nous échappent et qui nous échappent d'autant plus qu'elles ne sont pas dites. Alors, je voudrais terminer par deux choses. D'abord, je voudrais citer un auteur remarquable qui a dit tout à l'heure que le roman national, c'est la mise en cohérence du temps. Peut-être est-il temps de poser la question du roman national en mettant en cohérence les pluralités temporelles et spatiales qu'évoquait Suzanne Citron de l'histoire nationale. Pluralité temporelle et spatiale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs âges de l'immigration. Il y a plusieurs temporalités de l'immigration. Il n'y a pas une immigration maghrébine, ça n'a aucun sens. Mais les enseignants d'histoire n'arrêtent pas de le dire. L'immigration maghrébine ne commence pas en 1950. L'immigration maghrébine, elle commence en 1900, elle commence au moment de la spoliation des terres. C'est-à-dire qu'elle est reliée à une question coloniale et sociale profonde, la prolétarisation des familles qui sont dans un dénuement suite à la spoliation des meilleures terres du Tell en Algérie, par exemple. Il y a toute une histoire qui s'écrit à condition de ne pas prendre en compte l'immigration uniquement, mais aussi l'émigration et les conditions de l'émigration. Mais je pourrais développer un autre moment. Autrement dit, moi j'accepte, puisque tu as posé la question, Olivier, moi je vais répondre et je prends le risque, parce que c'est toujours très mal vu pour un historien qui est dans cette espèce de centrisme qu'évoquait Patrick tout à l'heure. On est toujours centriste quand on est historien. Je vais accepter le fait de dire que moi j'accepte d'être un lavis conscient. Un lavis conscient, c'est-à-dire... mais à condition de pas être dans le conte de fées, de déconte de fier l'histoire, hein. C'est-à-dire que je suis un lavis confiant parce que les enfants qui sont ici sont des enfants de la Gaule et je l'assume absolument. Et d'ailleurs tu le sais puisque j'ai écrit des choses comme ça, c'est-à-dire que les enfants qui sont sur le sol français sont français à part entière. Sinon le droit ne veut plus rien dire. Le droit du sol, c'est le droit du sol. Et donc ces enfants, j'ai envie de leur apprendre Clovis, j'ai envie de leur apprendre Toussaint l'Ouverture, j'ai envie de leur apprendre Averroès, j'ai envie de leur apprendre la spoliation des terres, mais pas en tant que c'est leur histoire, mais en tant que c'est notre histoire commune. Et deuxièmement, je voudrais terminer par celui qui n'a pas été écouté en son temps et qui a fait perdre 20 ans, Dieu se fait, ce silence a fait perdre 20 ans l'éducation nationale, c'est Abdelmalek Sayad qui disait, et je terminerai là-dessus, le fait que Renouer les fils de l'histoire, restaurer la continuité de cette histoire, ce n'est pas simplement une nécessité d'ordre intellectuel, c'est aujourd'hui une exigence d'ordre éthique. Merci.